Bonjour Tiffaine, bon après-midi à vous. Aujourd'hui dans la compagnie, c'est le troisième et dernier épisode de notre série consacrée à Lawrence d'Arabie.
La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. T.E. Lawrence, l'auteur des 7 piliers de la sagesse, est un fils de la liberté. Son père, petit aristocrate anglais, avait en effet choisi d'abandonner son nom, ses terres, sa femme et ses 4 filles pour partir avec leur gouvernante bourlinguer en Europe sous le patronyme de sa femme aux origines obscures. Lawrence aurait donc dû s'appeler Chapman et on peut penser qu'il héritera du décalage inconfortable de sa naissance, une certaine pulsion du départ comme nous l'avons vu lundi, c'était avec Christian Destremau au cours d'une émission à retrouver en podcast. Hier, avec l'écrivain Jean Rollin, nous sommes revenus sur un moment particulier de la vie de Lawrence, à savoir ce voyage fondateur qu'il a fait à 21 ans au Moyen-Orient sur la route des forteresses bâties par les croisés. Enfin, demain, ce sera la dernière émission de la saison. Nous parlerons d'un autre sujet qui fait signe vers l'été, avec une émission consacrée à la mer, M-E-R, dans la littérature. Nicolas Hidier sera notre invité. Et aujourd'hui,
j'avais eu un grand désir toute ma vie, pouvoir m'exprimer sous quelque forme imaginative, mais mon esprit était trop diffus pour acquérir une technique. Enfin, le hasard, avec un humour pervers, en me faisant jouer le rôle d'un homme d'action, m'avait donné une place dans la révolte arabe, thème épique tout près, m'offrant ainsi une issue vers la littérature, art qui comporte le moins de technique. Mais le mode épique m'était étranger, lui aussi, si bien que je ne pouvais comprendre des hommes comme Aouda, qui paraissait si illusoire.
Aujourd'hui, pour continuer à explorer les motivations littéraires et la personnalité de Lawrence d'Arabie, nous sommes en votre compagnie. Christine Jordis, bonjour.
Bonjour.
Vous écrivez des romans, des récits, des essais. Il y a quelque chose qu'on repère dans nombre de vos textes, c'est la question de l'infini. Vous semblez hanté par l'infini.
Je suis hantée par le désert. Et si j'ai écrit ce livre, qui est un portrait, deux portraits plus exactement, mis dos à dos, d'une part de Foucault, d'autre part de T.E. Lawrence.
Donc ça s'appelle L'aventure du désert.
Qui s'appelle L'aventure du désert.
Dans la collection L'infini,
exactement,
chez Gallimard.
Exactement, dirigé par Solers, qui d'ailleurs n'aimait pas trop Foucault, mais adorait T. Lawrence et voulait couper mon livre, ce que j'ai refusé.
Ça fait une grosse coupe quand même, parce que c'est les moitiés.
Oui, oui, oui. Et puis, je trouve qu'ils avaient leur place ensemble. Mais c'était, à vrai dire, un livre de préparation qui me permettait de temporiser un peu avant l'écriture de celui qui me tenait le plus à cœur et qui s'appelle « Une vie pour l'impossible ». Et je ne l'ai pas dit, mais il s'agissait de mon propre père qui a vécu un peu comme T. Lawrence, toute proportion gardée. Et sans être le directeur de révolte qu'a été Lawrence, il a vécu dans le désert du Djebel Druze à 20 ans.
Et aussi puis, dans le désert glacé.
Et puis il est revenu dans le désert avec moi cette fois. Quand j'étais très jeune, j'ai donc été dans le désert avec lui, où je l'ai vu s'épanouir. Ça n'était plus l'homme de la vie ordinaire. Et enfin, à 60 ans, il a donné tout ce qu'il avait et il est parti vivre aux côtés des Esquimaux Inuits. Mmh. Pas comme l'a fait Paul-Émy Victor pour une expédition, mais il est parti vivre avec eux, parti en traîne, construire des igloos par mois 50. Et quand il est revenu, il se portait très bien parce que le froid conserve et qu'il avait été heureux, figurez-vous.
Donc c'était un petit peu une marge d'approche pour vous d'écrire L'aventure du désert sur Charles de Foucault et T. Lawrence, avant d'en arriver à l'histoire de votre père, Une vie impossible, chez Gallimard aussi, en 2012. À quel point votre père ressemblait-il à T. Lawrence, parce qu'il y a quand même des choses assez frappantes dans les ressemblances entre ces deux hommes.
C'est vrai. On a dit que T. Lawrence était très beau. On a dit aussi qu'il était très laid. De mon père, je dirais, qu'il n'y avait pas ce doute à son sujet. C'était un homme très beau. Donc, ça m'a aussi frappée quand j'étais petite, bien sûr. On est frappé par ces choses-là. Mais ça n'est pas le côté physique, évidemment, de T. Lawrence qui m'a accrochée. On décrivait, les femmes ont décrit son regard bleu extraordinaire, ses cheveux blonds, son teint pâle, disait-on. J'ai du mal à croire en tout ça, parce que quand on voit ses photos, il s'agissait d'un homme très petit, 1m68, qui manquait de prestance, un gringalet, alors qu'il était d'une force herculéenne. Enfin, il était physiquement le contraire de l'homme qu'il était au moral et dans la vie matérielle, car il était capable d'accomplir des exploits extraordinaires, battant les Arabes sur leur propre terrain, tenant le coup plus longtemps dans la chaleur, plus longtemps sur un chameau,
alors qu'il détestait ses bêtes à quatre pattes.
Ah ouais.
Il a eu du temps.
Il n'aimait que sa moto, qui était une splendeur de force et d'acier. Et là, il y a les seules paroles, les seuls mots un petit peu tendres qu'il écrit, que j'ai trouvé dans son œuvre. C'était au sujet de sa moto qu'il avait surnommée, je ne sais pas prononcer Borg ou quelque chose de bizarre, mais qu'il aimait, dit-il, sa moto l'aimait, alors que les chameaux lui étaient parfaitement indifférents, mais il était capable de tenir pendant des heures, et il battait les Arabes sur leur propre terrain, et les Arabes l'admiraient pour cela.
Mais alors, on va laisser de côté votre père, mais tout de même, j'aimerais y revenir une dernière fois. Est-ce que c'était une maladie, entre guillemets, cette pulsion vers l'infini, que vous avez du coup connue de près à travers l'histoire de votre père, et qui pourrait être la même maladie que celle de T. Lawrence, entre guillemets évidemment, toujours.
C'était la même maladie, c'est certain. C'était une incapacité à vivre la vie quotidienne ordinaire. Il n'aurait jamais dû se marier, c'est évident. Et c'est sa femme qui disait de lui, il a la maladie de l'infini. C'est-à-dire que rien n'a jamais pu le satisfaire, le combler, ni le faire tenir tranquille finalement. Il devait se mesurer à quelque chose qu'il dépassait et qu'il faisait souffrir et qu'il forçait à aller de l'avant. Et ça m'a tellement éblouie, petite, alors que je vivais dans un milieu bourgeois tranquille dans une ville de province après la guerre et que j'y étouffais, ça m'a tellement éblouie que par la suite, ça a été ma préoccupation essentielle de livre en livre, c'est de m'attacher à ce genre de personnage à qui la vie quotidienne ne suffisait pas et qui ne pouvait s'épanouir ou tout au moins être sur le chemin de l'épanouissement que dans la difficulté, dans le dépassement et dans la recherche de l'absolu, voyez-vous. Et T. Lawrence, c'était l'un de ceux-là, en pire, si je peux dire. Il était l'extrême de ces aventuriers.
Et Charles de Foucault ?
Charles de Foucault avait Dieu, vous voyez, ça fait une différence malgré tout. Malgré tout. Mon père a cherché Dieu aussi, parce que après la banquise, il est allé vivre dans un monastère à Cœur Moussa au Sénégal. Et mal l'en a pris peut-être, mais enfin toujours est-il qu'il cherchait Dieu. Tandis que T. Lawrence n'a jamais cherché Dieu une minute. Il y avait un refus de Dieu absolu, constant, inflexible. Et voilà, donc il avait à la fois l'aspiration à l'infini, l'insatisfaction de tout le reste, le mépris, on pourrait dire, de tout le reste, et de la vie matérielle et de son corps surtout, et de l'être humain tel qu'il était, sans pouvoir aboutir à l'idéal qu'il entrevoyait et qui n'avait pas de nom et qui n'était pas Dieu.
Alors T. Lawrence n'avait pas Dieu pour l'aider, mais là il faut faire revenir encore l'infini, qui est décidément votre thème de prédilection. En 2014, vous avez publié chez Albin Michel un essai intitulé « William Blake ou l'infini ».
Oui, 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 c'est vrai.
Et Blake disait « Tout ce qui est saint ». Et T. Lawrence aurait pu dire aussi, prononcer cette parole un peu matérialiste, tout ce qui est, ou même panthéiste, est saint.
Alors justement, il a parlé de Blake, qui lisait T. Lawrence, il avait tout lu, vous savez. Et ce tout ce qui est saint, qui est une parole admirable, et presque bouddhiste, parce que c'est de voir Bouddha dans chaque homme et dans chaque plante, c'est peut-être ce à quoi on devrait s'efforcer d'arriver. Eh bien, T. Lawrence, évidemment, qui pourchassait l'illusion, voyait là une illusion parmi d'autres.
Dans chaque plante et aussi peut-être dans chaque étoile.
Après le repas, rassemblé contre la fraîcheur de ce haut plateau nordique autour de la braise agréablement rougeoyante où bouillotait l'eau du café, On bavarda sur les tapis de choses lointaines et d'autres. Nasser s'étendit sur le dos, mes jumelles à la main, et se prit à considérer les étoiles. Après avoir dénombré à haute voix deux ou trois constellations, il s'écria en découvrant de petites lueurs qu'il n'avait pas remarquées à l'œil nu. Aouda mit la conversation sur les télescopes, les grands. Il fallut raconter comment l'homme, en trois siècles, avait fait de tels progrès qu'il pouvait aujourd'hui construire des lunettes aussi longues que la tente et compter dans cet instrument des millions d'étoiles inconnues. Mais qu'est-ce donc une étoile ? On passa aux soleils qui sont derrière les soleils, aux distances et aux grandeurs inimaginables. Qu'allez-vous faire maintenant de cette science ? Demanda Mohamed. Nous allons la pousser plus loin encore. De nombreux savants et quelques génies construiront ensemble des instruments dont la puissance dépassera les nôtres autant que les nôtres dépassent la lunette de Galilée. Toujours de nouvelles centaines d'astronomes discutant et déterminant de nouveaux milliers d'étoiles en dresseront la carte et donneront à chacune son nom. Quand nous les verrons toutes, il n'y aura plus de nuit au ciel. Pourquoi les Occidentaux veulent-ils toujours tout ? Dit Aouda.
Alors là encore, c'est la quête de l'infini que l'homme a toujours recherché en regardant les étoiles, mais chercher l'infini, ce n'est pas forcément faire preuve de sagesse, comme le souligne Aouda, qui se demande pourquoi les Occidentaux veulent toujours tout, pourquoi veulent-ils tout savoir, pourquoi la science doit-elle sans cesse repousser le mystère de la vie. Est-ce que c'est une question aussi qui court dans la littérature et parmi les problématiques de T. E. Lawrence, selon vous ?
Il y a peu de problématiques qu'il n'ait abordées. Et il regardait les étoiles, il pensait à ce qu'était Dieu pour les Arabes, il cherchait qui il était lui-même, mais donc il était constamment changeant quant à ces points de vue-là. Je veux dire que c'était un homme qui a passé sa vie à tirer des conclusions et à se contredire. Son humeur même était changeante, vous voyez. Donc on ne peut pas vraiment le classer, ni dire oui, effectivement, il s'est adonné à l'étude de la science, car ça n'est pas vrai. Quand il était jeune à Oxford, d'ailleurs il est mort jeune, donc il a toujours été jeune, mais quand il était très jeune, il était dans la bibliothèque de l'université anglaise, et il y avait 50 000 livres, et Robert Graves, le poète, qui est un de ses biographes, dit qu'il les avait tous lus. Il passait sa vie allongé sur le ventre au lieu d'aller en cours, et il lisait 5-6 livres par jour. Et on a cru que ça faisait partie de ses vantardises, car Lawrence était un peu mythomane, il adorait raconter des histoires sur lui-même. Mais non, je crois qu'il avait vraiment lu et absorbé, et mémorisé et synthétisé extrêmement vite ses livres. Il est donc bien possible qu'il en savait beaucoup sur la science. Mais ça n'est pas du tout ce qui l'a préoccupé. Ce qu'il cherchait vraiment, je crois, beaucoup plus que des réponses métaphysiques, c'était la guérilla, la science de la guérilla. Et alors là, ça, c'est extraordinaire.
Il va falloir qu'on y revienne longuement en deuxième partie, parce que c'est vrai qu'il y a énormément de choses à dire, mais est-ce que vous diriez qu'il a été sage, finalement, Lawrence, dans sa vie ? Parce que ce titre, « Les sept piliers de la sagesse », quand on ne le connaît pas, on a l'impression que c'est une clé qui va nous ouvrir la compréhension de la vie, alors que ce n'est pas du tout ça.
Non, il est dans l'excès. C'est un homme de l'excès, du malheur, de la souffrance, un homme qui veut tout briser en lui de ce qui fait obstacle. Il veut recréer la terre et le ciel à sa mesure. C'est là l'idée de la révolte arabe. Et il veut aussi recréer l'homme qu'il n'admet pas entaché d'un corps, vous voyez, avec ses pulsions animales. Pour lui, la fécondité, la sexualité, tout ça, c'était quelque chose d'absolument ignoble, qui nous tirait vers le bas, à la matérialité de l'homme, le dégoûtait profondément. Donc on ne peut pas dire que ça a été un sage, dans la mesure où la sagesse, après tout, consiste à s'accepter peut-être dans le meilleur de nous-mêmes, mais tout de même à nous accepter. Et lui ne s'acceptait pas, même dans le meilleur de lui-même.
Il n'acceptait pas son corps que vous décriviez tout à l'heure, ce corps petit, râblé, très juvénile aussi. Mais
oui, il était tout un gringalet, on disait. Et on ne comprenait pas, en voyant ce petit morveux, que ça puisse être cet être de puissance qui avait vaincu les Turcs et conduit la révolte arabe. Donc c'est vrai qu'il n'acceptait pas son corps, mais aurait-il eu un corps superbe qu'il n'aurait pas plus accepté. Non, ce qu'il détestait, c'était la matérialité du corps et l'instinct animal. Et vous voyez ça dans La Matrice, ce livre qui raconte son expérience dans la RAF et puis dans les Tank Corps, où il était avec le troufion moyen, qu'il a d'ailleurs souvent aimé d'amitié, mais qu'il trouvait particulièrement répugnant, avec ses odeurs dans les dortoirs, etc. Donc on ne peut pas dire de Lawrence qu'il ait jamais été sage, ni qu'il se soit efforcé à la sagesse. Il s'est efforcé à la destruction de soi, plus exactement. Je crois que c'est ça. Il s'efforçait à progresser vers un ciel qu'il ne nommait pas en détruisant la partie animale de lui-même. Et ça n'est pas la sagesse.
Est-ce que c'est le puritanisme de son éducation qu'il a mis sur ce chemin, j'ai envie de dire sur ce triste chemin?
Oui, triste. Oui, triste et oui et non.
Enfin, le refus de son propre corps.
Le refus de son corps est une chose certainement affligeante, pour la majorité des gens en tout cas. je crois que Lawrence a eu, dès le départ, beaucoup de mal à cause de sa famille. Vous savez, sa mère, qui était une femme terrible, une Écossaise très très dure, qui était née dans le péché et qui avait prolongé ce péché puisqu'elle avait retiré son mari à sa femme et qui vivait donc en concubinage et qu'elle a fait 5 fils, ça, lui, l'a compris, le petit Ned, comme on l'appelait, il l'a compris tout de suite, mais c'était absolument caché. Il a donc vécu dans le sentiment qu'il transmettait le péché qui était attaché à sa personne et à sa famille, vous voyez.
Le péché, on va y revenir, et puis aussi la culpabilité. Tout cela est évidemment très lié, la culpabilité de son rapport avec les Arabes qu'il a pourtant mené à la victoire. Écoutez.
Désormais, parmi les Arabes, j'étais le désillusionné, le sceptique qui enviait leurs croyances bon marché. La fraude inaperçue semblait un habit si bien coupé, si saillant pour la pacotille humaine. Les ignorants, les trompés, étaient les heureux parmi nous. Notre escroquerie les glorifiait. Nous les dupions et ils combattaient l'ennemi de tout cœur. Notre volonté les soufflait devant elles comme de la paille, et ils étaient non pas de la paille, mais les plus braves, les plus simples et les plus gais des hommes. Pourtant, je ne pouvais attribuer mon assentiment à cette farce à une faiblesse de caractère ou une hypocrisie innée, quoique, bien sûr, j'ai dû posséder quelques tendances, quelques aptitudes à la tromperie. Sinon, je n'eusse pas si bien trompé les hommes, ni persisté si longtemps, l'amenant au succès, une tromperie ourdie par d'autres et mise sur pied. Où, exactement, au cours de la révolte arabe, mon rôle passa-t-il de celui de complice à coupable principal? Sur quelle charge devais-je être condamné? J'étais ma propre cour martiale permanente, sans échappatoire. Il y avait là un égoïsme caché. Souffrir pour autrui donnait un sentiment de grandeur. Rien de plus élevé qu'une croix d'où contempler le monde. Cet orgueil était au-delà de la vanité. Ainsi, empêtré dans les nerfs et l'hésitation, mon moi était une vraie bête sauvage. Et ce livre, c'est sa peau galeuse, séchée, empaillée et dressée à la face des hommes.
Beau passage que cet extrait du chapitre 90 des 7 piliers de la sagesse, lu ici par Guillaume Gallienne, Christine Jordis. Vous citez une des lettres de T.E. Lawrence à Lionel Curtis dans votre livre où il dit « Nous sommes tous également coupables ». C'est la culpabilité vis-à-vis de ce peuple qui l'a accueilli.
Lawrence se traitait d'escroc. et il a passé sa vie à se fustiger, et ça allait plus loin encore que son rôle dans la révolte arabe, mais il est certain que ce rôle dans la révolte arabe lui a pesé atrocement, parce que il a galvanisé les Arabes, il les a liés. C'est d'ailleurs extraordinaire ce qu'il a fait. Il a su, par sa diplomatie et parce qu'il se transformait en Arabe, aller d'une tribu à l'autre.
À quel point se transformait-il justement en Arabe ?
Écoutez, il se déguisait, il adorait le déguisement puisqu'il ne s'aimait pas lui-même. Il se trouvait différent, avec des séries de noms différentes. Il a changé de nom, je ne sais pas, 3-4 fois. Et puis, il changeait d'habit. Et là, il était sublime, habillé tout en blanc, avec sur la tête le voile et puis la coiffe arabe. Il s'est fait prendre en photo dans tous les sens, tout en se fustigeant. Il entrait à reculons sous les feux de la postérité et de la célébrité. Il y avait Lowell Thomas, qui était un grand photographe américain, qui faisait des conférences partout après les succès de Lawrence et qui l'a rendu très célèbre. Mais Lawrence ne pouvait pas supporter ça. Alors, d'une part, parce qu'il désirait follement la célébrité et qu'il se méprisait pour la désirer à ce point. Donc il y avait en lui, comme il dit, une cour martiale ambulante. Mmh. Et d'autre part, parce qu'il avait le sentiment, toujours, au moment même, de tromper les Arabes, à qui il avait promis l'indépendance, sachant que les gouvernements, qui étaient des fauchetons, mais ça on le sait tous, ne leur donneraient pas l'indépendance, mais allaient diviser les pays entre les intéressés. La France, par exemple, allait hériter de la Syrie, comme vous le savez, alors que la Syrie, il avait promise à Faisal, son allié. Donc, pour Lawrence, il se voyait en escroc, et il était un escroc, et tout le temps qu'il commandait aux Arabes et qu'il les acheminait vers le succès, espérant tout de même que les gouvernements reconnaîtraient leur victoire aux Arabes, tout le temps, il savait qu'il n'en serait sans doute rien. Et ça, il en a souffert... affreusement, oui, d'être ce qu'il croyait dès l'origine, un escroc.
Cette culpabilité, est-ce que c'est le côté un peu dostoïevskien de Lawrence ?
Oui, c'est ça, c'est ça. Il se sent, il est né coupable. Et alors, bien sûr, les psys s'en donneraient à cœur joie, parce que il y a des explications toutes trouvées à cela, avec cette famille coupable. À l'époque, vous savez, c'était pas rien, tout de même, de naître en dehors du mariage. Mais il y avait comme une marque de naissance en lui, qui était le corps, qui était ce corps, cette matérialité dont il ne voulait pas. Alors, ça dépasse quand même de beaucoup, à mon avis, l'explication psychanalytique.
Bah, c'est-à-dire qu'il y a aussi des historiens de la littérature qui pourraient l'expliquer par cette espèce d'image du mal absolu qu'on retrouve dans la littérature de la fin du 19e siècle. Alors lui, c'est un écrivain un petit peu postérieur, mais qui a lu énormément, comme vous l'avez dit à l'instant, Christine Jordis. Est-ce qu'il y a cette atmosphère de l'époque aussi ?
Oui, il y a tout à fait l'atmosphère de l'époque. Et vous avez, je le cite parce que ça m'a beaucoup servi et que je le trouve remarquable, un livre de Roger Stéphane qui s'appelle « Portrait de l'aventurier ». Et la façon dont il lit T. Lawrence, comme j'ai pu le faire pour mon père d'ailleurs, c'était des hommes de ces années-là, du début du siècle et des années 30, de l'époque de l'absurde, si vous voulez. Et la vie, pour eux, ils la voyaient sur fond d'absurde. Et même la victoire était quelque chose d'absurde. Il n'y avait de vraie liberté que dans l'échec, si vous voulez. La victoire, aussitôt l'aviez-vous conquise, que vous vous disiez, et après, ça n'était que ça. Il parle du fait que l'idéal n'est plus l'idéal. L'idéal, en quelque sorte, perd sa qualité d'idéal au moment où on l'atteint. Mmh. Et ne reste plus, après cette perte, que des actions qui s'enchaînent et qui sont dépourvues de sens. Elles s'enchaînent par la force d'une logique interne, mais qui n'a pas de sens véritable. Et c'est cette absence de sens que, comme toute sa génération, Lawrence va ressentir. Et c'est pourquoi il préfère, d'une certaine façon, l'échec, parce que dans l'échec, il est dans une forme de vérité, celle de la mort, qu'il recherche, plutôt que la victoire qui est un mensonge et qui ne change rien. Car après, c'est simplement une interversion de la situation. Les Arabes ont gagné, mais vous avez des morts des deux côtés. C'est toujours pour avoir des morts des deux côtés.
On pense à Malraux un petit peu en vous écoutant parler. On pourrait dire un peu la même chose de Malraux,
oui,
qui a écrit justement sans
sur
publier,
T. Lawrence. Oui, voilà, oui. Oui, il a aussi écrit une courte biographie de T. Lawrence qu'il était particulièrement apte à comprendre, vu ce que sont ses héros. Et comme vous le dites très bien, ce qu'était l'époque, car il faut le resituer dans une époque qui perdait la foi, qui avait perdu Dieu et qui ne s'en remettait pas finalement.
Et lui aussi, il avait le démon de l'absolu, l'insatisfaction du quotidien, comme votre père, peut-être, comme T. Lawrence.
Exactement, exactement. C'était des hommes qui appartenaient à cette époque-là. Alors, nous, est-ce qu'on l'a vraiment perdu ? quelquefois, je me dis que oui.
Vous croyez qu'on a perdu le démon de l'absolu ?
Écoutez, j'ai du mal à le retrouver à l'heure actuelle. On est tellement absorbé et affolé et désorienté par un monde chaotique où on n'a plus de repères on se dit que l'absurde même n'a pas de sens, si vous voulez. Il n'y a plus de souffrance de l'absurde, puisqu'il est admis maintenant, l'absurde. On cherche au-delà. Mm-hmm. Quoi, je n'en sais rien. Mais enfin, voilà, on est désorienté maintenant, plus que à condamner l'absurde et l'absence de Dieu.
Pour revenir sur cette question de la culpabilité, il y a quelque chose qu'on n'a pas tout à fait fini d'évoquer dans le rapport au corps de T. Lawrence, c'est ce fameux épisode du viol dont il a été victime et qui joue beaucoup dans cette question de la culpabilité. Je vous propose, avant d'en parler, d'écouter cet épisode tel qu'il l'a raconté au chapitre 80 des 7 piliers de la sagesse.
On me fit monter chez le bey, ou plutôt dans sa chambre. C'était un homme gros, assis sur le lit en chemise de nuit. Il tremblait et transpirait comme s'il avait de la fièvre. D'une voix haletante, il me dit de m'asseoir sur le sol devant lui, puis resta muet. Enfin, il m'examina en détail et me dit de me lever, puis de pivoter sur moi-même. J'obéis. Il se rejeta en arrière sur le lit et m'entraîna avec lui dans ses bras. Quand je vis ce qu'il voulait, je me tordis et me relevais, heureux de me trouver son égal, en tout cas à la lutte. Il se mit à m'enjôler, disant combien j'étais blanc et frais, comme j'avais les mains et les pieds délicats, et comme il me dispenserait d'exercice et de corvée, ferait de moi son ordonnance, me paierait même des gages si je voulais l'aimer. Je restai inflexible. Aussi changea-t-il de ton et m'ordonna sèchement d'enlever mon pantalon. Comme j'hésitais, il m'empoigna et je le repoussai. Il claqua dans ses mains pour appeler la sentinelle qui se précipita et me saisit les bras. Le bey me maudissait avec d'horribles menaces et fit arracher pièce par pièce mes vêtements par l'homme qui me tenait. Finalement, il se mit lourdement sur pied avec une lueur dans l'œil et commença à me tripoter tout le corps. Je le supportai un moment jusqu'à ce qu'il devint trop infect. Alors je lui envoyai un coup de genou. Il tituba vers son lit, plié en deux et gémissant de douleur, tandis que le soldat appelait à grands cris le caporal et les trois autres hommes pour qu'ils me saisissent pieds et mains. Dès que je fus impuissant, le gouverneur reprit courage et me cracha dessus, jurant qu'il me ferait demander pardon. Il ôta sa pantoufle et m'en frappa à plusieurs reprises le visage, pendant que le caporal me tirait la tête en arrière par les cheveux pour m'offrir au cou. Il se pencha en avant, me planta ses dents dans le cou et mordit jusqu'à ce que le sang jaillît. Puis il m'embrassa. Ensuite, il dégaina la baïonnette d'un des hommes. Je pensais qu'il allait me tuer. Mais il ne fit que tirer un pli de ma chair sur mes côtes et le traversa de la pointe, donnant un demi-tour à la lame. Je tressaillis pendant que le sang serpentait sur mon flanc et dégouttait sur le devant de ma cuisse. Il parut content et m'en arrosa le ventre du bout des doigts. Tu dois comprendre que je sais et que les choses seront plus faciles si tu fais comme je veux, dit-il d'un air mystérieux.
Et dès lors, comme il l'a raconté, avec un certain courage d'ailleurs, l'humiliation finalement, ce sentiment aussi, non seulement d'avoir été sali, mais, et il l'explique d'ailleurs, d'avoir pu prendre du plaisir contre son gré.
C'est ça surtout.
Parce que a été pour lui très troublant.
La suite du passage, lui, est pire encore. À savoir qu'on va l'attacher sur un banc et avec un fouet circassien à une pointe très très fine, on va le cingler de coups jusqu'à ce qu'il cède. La douleur est telle que pour avoir 5 minutes de répit, il cède. Mmh. Et ça, il s'en voudra toujours, vous voyez. C'est-à-dire que son esprit n'a pas dominé la douleur du corps, d'une part. Et d'autre part, il ressent, avant de s'évanouir, la vague chaude du plaisir sexuel. Et donc, quoi de plus atroce pour un homme comme lui, et qui déjà voulait dominer son corps à n'importe quel prix, de voir que là, d'une part, le plaisir sexuel est lié à une souffrance très intense, et vous verrez après, peut-être, si on va jusque-là, que dans la Cloud Hill, la petite maison qui s'était achetée, il s'est fait fouetter très très durement, jusqu'à l'évanouissement presque, par deux soldats payés pour ça, pour se rappeler cet épisode terrible où il a cédé, ça l'a hanté par la suite. Le plaisir, l'excès de souffrance et le fait que son esprit a cédé devant son corps, ce qui ne s'est jamais pardonné. C'est assez curieux cet épisode de Dera, vous savez, parce qu'il y a des chercheurs qui ont été jusqu'à Dera pour prouver que Laurence avait menti et qu'il n'a jamais été violé. Il y a toujours un doute sur ce viol qu'il a raconté de façon si terrible. Moi, personnellement, j'y crois. Il l'a dit à une de ses confidentes féminines et il l'a raconté aussi à un homme proche de lui. Voilà, c'est quelque chose qui a marqué sa vie entière.
Sur ce sujet, ça paraît aussi étonnant de raconter cela.
Et surtout avec des détails qui sont si... Mais moi, ce qui m'a toujours frappé quand même, c'est qu'il ait pu partir le lendemain, car il s'est évadé et il a chevauché. Et s'il a été battu au point de souffrir tellement, comment est-ce qu'il n'en a pas eu les traces? Comment est-ce qu'il a pu résister? Et quand il a fait son service militaire par la suite, comment est-ce qu'on n'a pas vu les traces, plutôt celle de balle, de ses coups de fouet qui auraient dû lui entamer la chair, à tout jamais, vous voyez. Là, il y a des questions qui se posent, malgré tout.
Il y a aussi des questions dans le rapport à la mère. La mère qui donc battait visiblement...
La mère le battait comme plâtre,
son fils, oui.
Comme on le faisait à l'époque. Dégueulasse de battre les enfants, mais bon, heureusement, ça se fait moins. Mais à l'époque, c'était tout à fait légitime.
Et donc, on a beaucoup dit, explication psychologisante, mais bon, qui peut avoir aussi son intérêt, qu'il y avait dans une espèce de rapport sadomasochiste de T. Lawrence, et finalement, ce plaisir non voulu, mais tout de même ressenti au moment du viol, un rapport à la mère.
Un rapport à la mère qui trouvait une femme absolument terrible et admirable en même temps, dont il s'est toujours défié parce qu'il sentait dès qu'elle était quelque part que ça y est, il n'avait plus qu'à en partir. Mais aussi, il s'accusait de masochisme moral, mais il n'a jamais voulu s'accuser de masochisme physique. Et je pense que ces coups qu'il a payés par la suite pour recevoir étaient faits pour vaincre cette sexualité, justement, liée au masochisme. Ça, c'est pas une chose qu'il a voulu accepter du tout. Mais masochisme moral, oui, ça, il le reconnaît, il en parle tout le temps.
Alors, sa sexualité a fait, du coup, l'objet de multiples interrogations. Michel Lebris considère qu'il était tout simplement asexuel. D'autres considèrent qu'il était soit homosexuel, soit hétérosexuel. Peu importe, d'une certaine manière, tout ce qu'on sait, tout ce qu'on ressent, c'est qu'il y a un nœud très, très
dur. C'était un nœud de refus et de contradiction. Un nœud de souffrance. C'était une pensée qu'il ne pouvait pas arrêter et qu'il essayait de faire taire par tous les moyens. Je pense qu'il était homosexuel. Il y a des passages, j'avais envie de vous lire, mais je ne le ferai pas, d'un passage très très beau, très beau. C'est un des seuls passages de véritable tendresse chez T. Lawrence où il décrit deux jeunes arabes, innocents, élégants, qu'on punit et on fait que leur corps cède. Mais c'est seulement le corps qui cède, leur esprit est un esprit de joie. Et il est décrit avec joie, donc il n'avait rien contre l'homosexualité, ni la sodomie, c'était pas pire que le reste pour lui. Mais je crois qu'il ne pratiquait pas lui-même, oui ça je crois que c'est vrai. C'est un homme qui s'est interdit tant de choses, il n'aurait pas pu se permettre le plaisir, vous voyez.
On va continuer de parler avec vous de T. Lawrence en seconde partie de cette émission. Christine Jordis, juste après la chronique d'Alexis Broca.
La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Alexis Broca, rédacteur en chef adjoint du nouveau magazine littéraire. Bonjour à vous.
Bonjour Mathieu,
et
bonjour Christine.
Merci beaucoup d'être là. Vous nous parlez aujourd'hui du numéro d'été du nouveau magazine littéraire, qui est un numéro double,
voilà,
comme chaque été.
Exactement, un numéro double qui arrivera cette semaine dans vos kiosques. Et pour une fois, je ne vais pas vous parler d'un sujet du magazine, je vais vous parler des trois gros morceaux de ce numéro. Alors, le premier, c'est le dossier que nous consacrons à la littérature d'épouvante et à quelques-uns de ses maîtres. Bram Stoker, l'auteur de Dracula, Howard Phillips Lovecraft, l'inventeur de l'épouvante moderne, et Stephen King qui incarne cette littérature à notre époque. Il nous paraissait important de le faire parce que cette littérature qui a été longtemps méprisée et vue comme puérile, adolescente, eh bien, elle est en train d'être reconnue. Le Dracula de Stoker est entré cette année en Pléiade. Stephen King, qui a été longtemps vu comme une sorte de tâcheron, fait aujourd'hui l'objet de vastes recensions dans le New York Times. Et quant à Howard Philip Lovecraft, il est le sujet d'une vaste biographie, 1300 pages exactement, l'œuvre de 20 ans de travail d'un universitaire qui s'appelle S.T. Yoshi. Et cette biographie, en fait, elle est capitale parce qu'elle change radicalement la vision qu'on avait de Lovecraft. Vous savez, il y a une légende biographique qui court sur Lovecraft. On le voit comme quelqu'un qui n'avait pas de vie sociale, pas de vie sexuelle, qui ne souriait jamais.
Le reclus de Providence.
Le reclus de Providence, exactement. On le voit comme un personnage, en quelque sorte, absolu, le reclus absolu. Et en fait, effectivement, c'était un très curieux sujet, mais la biographie nous l'humanise, nous le rend plus humain, nous montre qu'il avait des amis, nous montre qu'il se passionnait pour le journalisme amateur, qu'il était, en quelque sorte, intégré dans la vie, à sa façon. Et surtout, cette biographie assoit l'essence du génie de Lovecraft, puisque, eh bien, avant Lovecraft, l'épouvante est d'inspiration généralement chrétienne. Bram Stoker invente avec Dracula une créature satanique qui craint les crucifix. Howard Philip Lovecraft, au contraire, invente une épouvante qu'il tire de la science, des équations d'Einstein notamment. Une épouvante où les monstres ne sont plus les ambassadeurs du mal, mais sont des créatures qui représentent, au contraire, les forces cosmiques qu'on est en train de découvrir. Et ces créatures sont encore plus effrayantes finalement que celles qui les précèdent, parce qu'elles ignorent le bien et le mal. Et pour elles, nous sommes des animacules, littéralement. Voilà.
C'est Cthulhu.
Le grand Cthulhu, Yog-Sothoth, Dirlatotep, le Kaoranpan. Ah. Enfin, il y a une fantastique onomastique chez Lovecraft en plus.
Alors dans les grands dossiers qu'on va pouvoir lire aussi dans le nouveau magazine littéraire de l'été, vous nous proposez quelques pages sur des rencontres qui ont vraiment fait l'histoire de la littérature.
Ah oui, on représente 40 pages sur ces rencontres. C'est vrai, sur ces rencontres importantes dans l'histoire de la littérature. Alors, dans ce dossier, en fait, on a panaché des rencontres classiques, la rencontre de Rimbaud-Verlaine ou celle de Nathaniel Hawthorne et d'Herman Melville que nous décrit Christian Garcin. Mais on en a d'autres qui sont plus inattendus. On a par exemple cette rencontre entre Proust et Joyce que nous raconte Philippe Forest où il ne se passa presque rien. On a cette rencontre très étonnante entre le jeune Wittgenstein et Hitler enfant, puisqu'ils étaient en classe à l'âge de 10-12 ans. Voilà, donc 40 pages pour voir la façon dont ces rencontres ont joué dans l'histoire de la littérature.
Et puis toujours dans ce gros numéro de l'été, des nouvelles de l'Amérique.
Voilà, alors on a acheté un article de l'écrivain américain Dave Eggers qui s'est rendu à un meeting donné par Donald Trump dans la ville d'El Paso, donc à la frontière mexicaine. Et c'est un reportage vraiment sidérant parce qu'il commence par une course-poursuite entre 4 cow-boys et 2 militants anti-Trump qui ont tenté de déployer le drapeau de l'URSS en plein meeting de Trump. Et la suite est du même tonneau, vous avez des fake news à l'appel, vous avez des improvisations trumpiennes proprement délirantes, puisque dans ce meeting, Trump a déclaré que la technologie était très utile pour lutter contre l'immigration illégale, mais que rien ne valait un bon berger allemand. Ce qu'explique l'article d'ailleurs, c'est que Trump n'est jamais si fascinant que lorsqu'il lâche ses fiches et commence à partir sur ses propres idées.
Ce qu'il fait assez souvent.
Ce qu'il fait assez souvent, voilà. Le meeting, d'ailleurs, est une série d'allers-retours de Trump entre Trump, le Trump sous contrôle et un Trump littéralement délirant, hors de contrôle. Et voilà, ça donne un article qui est à la fois très drôle, parce que c'est une plongée dans une politique que nous, on ne connaît pas. Et en même temps, c'est effrayant, parce que la conclusion de l'article, c'est que Trump pourrait tout à fait être réélu en 2020.
À méditer sur les plages
plages de votre été avec
Alexis
le magazine
Bonca,
littéraire.
Avec le nouveau magazine littéraire de l'été. Merci
Alexis, beaucoup.
À bientôt. La compagnie des auteurs que vous écoutez, vous êtes bien sur France Culture. C'est le troisième et dernier épisode de notre série consacrée à T. Lawrence d'Arabie. Nous sommes en compagnie de Christine Jordis, qui en a fait un portrait dans son livre « L'aventure du désert », publié chez Gallimard en 2009. Et on commence à présent à évoquer l'art de la guerre, selon Lawrence. Voici pour ce faire un extrait des Sept Piliers par la voix de Guillaume Gallienne.
Amra s'ouvrait sur notre gauche au cœur de la palmeraie. C'était, semblait-il, un village d'environ 100 maisons, enterré dans des jardins parmi des monticules de terre de quelques 20 pieds de hauteur. Nous franchîmes à gué un petit ruisseau et montâmes entre les arbres jusqu'au sommet d'un de ces monticules où nous fîmes s'agenouiller nos chameaux près du portail de la cour d'une maison longue et basse. Tafas dit quelque chose à un esclave de garde, une épée au pommeau d'argent à la main. Celui-ci me guida dans une cour intérieure, au fond de laquelle, dans le noir encadrement vertical d'une porte, se tenait une silhouette blanche qui m'attendait avec rigidité. Je sentis au premier regard que c'était l'homme que j'étais venu chercher en Arabie, le chef qui mènerait la révolte arabe à la pleine gloire. Faisal paraissait très grand et ressemblait à un pilier, très svelte, dans ses longues robes de soie blanche et son couvre-tête marron maintenu par une cordelette brillante, écarlate et or. Ses paupières étaient baissées. Sa barbe noire et son visage incolore semblaient un masque, comparé à l'étrange vigilance immobile de son corps. Ses mains étaient croisées devant lui, sur sa dague. Je le saluais.
Comprenez-vous, Christine Jordis, cette idée que Faisal, c'est l'homme que Lawrence cherchait? Est-ce qu'il faut comprendre que c'est l'homme de guerre qu'il cherchait, le stratège qu'il cherchait, ou peut-être tout simplement le compagnon, l'ami dans la bataille qu'il cherchait?
Peut-être rien de tout ça exactement, parce que Lawrence était très intuitif d'une part, et d'autre part, il avait beaucoup étudié tous ses livres sur la guérilla, et il cherchait un homme qui soit capable de le suivre dans la guérilla, qui soit un chef. Or, un chef pour un arabe, ça veut dire quelque chose de tout à fait précis, avec des qualités tout à fait précises, d'autorité, de compréhension, et il les a trouvées, et de dévouement aussi, en lui, en Lawrence, puisqu'il voulait faire affaire avec Faisal, il fallait donc qu'il puisse compter sur lui. Je crois qu'il a senti tout ça, et qu'il a eu raison d'ailleurs, parce que Faisal ne l'a jamais abandonné, de même qu'il n'a jamais abandonné Faisal. Mais cette idée de la guérilla, qui est une révolte et qui n'est pas la guerre, c'est quelque chose que Lawrence a importé chez les Anglais, qu'il a mené seul, car ce qu'il faut voir, c'est que les officiers anglais autour de lui le combattaient, tout comme les Turcs pouvaient le combattre. Il avait donc non seulement contre lui les ennemis des Arabes, mais ses ennemis anglais qui ne le comprenaient pas et qui ne voulaient pas le suivre. Donc sa tâche était très rude, d'une part parce que il voulait mener les choses suivant les conceptions qu'il s'était formées au cours de ses années de lecture et de réflexion et de rêve, car c'était un homme qui, lorsqu'il était malade, pensait et rêvait. Et beaucoup de ces théories sur la stratégie et les tactiques, émanaient, étaient inspirées par ces lectures qu'il a faites.
Donc Faisal a suivi finalement Lawrence dans ses intuitions quant à la manière de mener la guerre. Et c'est assez fascinant de voir
c'est
un occidental qui, à un moment donné, va... complètement réinventer la guérilla qui va devenir finalement le mode d'action contre les Occidentaux, et cela dans tout dans toute l'histoire aussi de la décolonisation qui va s'ouvrir.
Mais c'est absolument fascinant parce que il a compris qu'il ne fallait pas mener la guerre contre les Turcs comme une guerre habituelle, c'est-à-dire avec bombardement, blindés, rassemblement épais de soldats. C'est pas ça ce qu'il voulait faire. Il voulait une guerre de surprise, une guerre d'attaque. Et il savait que contre les peuplades qui étaient comme ça disséminées, des guerriers qui agissaient par surprise ici et là, l'armée lourde ne pouvait rien. Et il disait que vouloir utiliser la guerre dans un cas pareil, c'était comme de manger de la soupe avec un couteau. Ouais. Vous voyez? Et donc, que... lui, le couteau, pour lui, le couteau, c'était autre chose que la cuillère, évidemment.
Je crois que c'était le livre de chevet du général Giap qu'il a utilisé, les sept piliers de la sagesse, à Dien Bien Phu. Donc, il y a quand même ça aussi qui est tout à fait fascinant, c'est que ce livre, c'est aussi un manuel de guerre.
C'est un manuel de guerre. C'est un manuel de guerre parce que ça ne s'était jamais fait de cette façon-là avant, c'est-à-dire prendre la tactique des indigènes, prendre aussi la stratégie de Lawrence qui pensait à long terme, parce que ce qu'on n'a pas dit, peut-être allez-vous le dire, c'est qu'il a tout de même conquis une à une les villes de la côte occidentale de l'Arabie Saoudite, de la Transjordanie, qui ne s'appelait pas comme ça à l'époque, puis c'était l'Empire Ottoman, et qu'il est remonté jusqu'à l'Irak, n'est-ce pas ? En traversant la Syrie. Donc, en traversant la Syrie, puisque c'était Damas. Ouais. Sa dernière conquête, c'était Damas.
C'est aussi une conquête, évidemment, contre le désert, parce que cette guerre tactique consistait à passer là où on pensait qu'il n'était pas possible justement
c'est ça,
de passer, c'est-à-dire à traverser la fournaise.
C'était arriver là où on ne vous attendait pas, parce qu'on vous attendait à l'endroit qu'il était le plus facile d'atteindre, mais lui passait par les chemins les plus improbables et difficiles, avec ses troupes, dans des conditions assez atroces, il faut dire, très très dures. Il ne mourait pas sur le terrain, parce que c'était des hommes incroyablement aguerris, et qui étaient, en quelque sorte, à la poursuite de l'absolu, de l'idéal et de la conquête, comme lui, Lawrence. Ils étaient soudés dans la passion.
C'était peut-être ça aussi, ce qu'il apportait à ces guerriers arabes. C'est un aspect métaphysique, parce que c'était un chef de guerre, avec Fessal aussi, qui soudait finalement autour d'une sorte d'idéal un peu mystique, leurs troupes. Et ça fait beaucoup, évidemment,
Sa victoire était une victoire spirituelle. C'était la victoire des Arabes et la sienne, et c'était spirituel. Car il voit les Arabes, il les décrit assez curieusement, comme il aurait pu se décrire lui-même. Il y a des passages magnifique dans les sept piliers de la sagesse sur le désert, les Arabes et ces êtres qui n'aimaient pas les biens matériels et qui aimaient le dépouillement, qui aimaient la nudité du corps et de l'esprit, mais surtout de l'esprit, qui aimaient comme une forme d'espace autour d'eux, de liberté. Et c'était cela qui les soudait ensemble, comme la passion. La passion, c'est le mot qu'il emploie le plus souvent, qu'il émettait en dehors des désirs habituels et qui en faisait comme une seule âme, en quelque sorte.
Et c'est aussi intéressant de voir comment le côté métaphysique que vous venez de décrire, Christine Jordis, se retrouve dans la tactique elle-même quand il dit « il faut être comme gaz ou vapeur ». C'est toujours la légèreté qui permet de gagner
absolument.
À la fois la légèreté dans la tête, dans l'âme, dans l'esprit, oui. Et aussi la légèreté dans l'organisation sur le terrain. Et c'est fascinant de voir comme tout cela se tient véritablement.
Ils étaient, dit-il, le désert et la mer, c'est la même chose. Vous avez l'espace, et l'espace, vous ne vous coagulez pas dans l'espace. Vous attaquez par des points complètement différents. Mmh. Il y a là une espèce de légèreté dans cette liberté d'être et de vagabonder. Pas vraiment vagabonder, parce que vous vous dirigez toujours vers un endroit, mais vous avez l'espace autour de vous qui vous appartient et que les autres ne possèdent pas. Je vous lis juste quelque chose que je trouve très beau. « Le bédouin du désert, qui était né et y avait grandi, avait embrassé de toute son âme cette nudité trop rude aux étrangers pour cette raison, ressenti mais non exprimé, qu'il s'y trouvait libre sans le moindre doute. Il perdait les liens matériels, le confort, tout le superflu et autres complications pour parvenir à une liberté personnelle hantée par la famine et la mort. Mmh. » C'est ce que recherchait Lawrence, qu'il a trouvé chez les Arabes. Il n'était pas un Arabe, il le savait, d'où son impression d'être un escroc. Il n'était plus un Anglais, il avait perdu leur façon de voir, il était entré dans celle des Arabes. Il n'était pourtant pas un Arabe. Donc il était près de la folie, entre deux mondes, vous voyez. Et il jouait, c'était un grand joueur. Et à chaque fois, à chaque combat, car ce n'était pas vraiment des batailles, à chaque combat par surprise, il était étonné d'avoir gagné, jusqu'au moment où il s'est dit, ben oui, mais je suis bon là-dedans, j'ai quand même gagné quelque chose, nous arrivons à Aqaba, il s'est dit ça, nous arrivons à la victoire. Mais encore une fois, victoire et désillusion, c'était la même chose. Cela dit, cette tactique de la guérilla, c'est remarquable de sa part, hein, il avait tout compris.
Je n'ai jamais envoyé de lettres de ce genre à qui que ce soit d'autre, depuis que je suis né. Jamais aucune confiance n'a régné entre ma mère et moi. Chaque fois que nous nous trouvions ensemble, chacun était jalousement sur son quant à soi. J'ai toujours eu le sentiment qu'elle m'assiégeait et emporterait la place, si je laissais la moindre brèche sans protection. Lorsque je vous écris, je ne me sens jamais obligé d'avoir en tête l'idée d'un auditoire. Nous ne cessons de nous comprendre que lorsqu'il s'agit de mes livres, que je trouve être de la pourriture bonne à jeter et que vous trouvez bon. J'aimerais aller plus loin et dire que nous serions d'accord sur un point fondamental. Il serait le reflet intégral de la personnalité et de l'esprit de l'auteur. Mais pensez-vous qu'aucun homme pourrait sincèrement se qualifier par écrit de pourriture bonne à jeter ? Même la personne la plus lucide du monde fera dans un recoin bien gardé une réserve, à savoir qu'elle ne saurait être aussi minable que ce qu'elle crée. J'estime que mes livres me rendent injustice. C'est pourquoi je souhaiterais n'avoir rien écrit. Je souhaiterais les avoir brûlés après les avoir écrits, en m'apercevant de leurs défauts. Et chaque fois que je tombe sur une ancienne lettre de moi, je voudrais que le destinataire l'eût également brûlée. Nous serions les plus heureux du monde si nous ne laissions aucune trace derrière nous.
Une lecture par Pierre-Marie Baudouin de cette lettre à Charlotte Shaw du 18 août 1927, Christine Jordis. Victoire à Aqaba, mais désillusions vont de pair. Best-seller mondial avec son livre Les Sept Piliers de la Sagesse et une volonté de ne laisser aucune trace derrière lui. C'était ça, vraiment, T.E. Lawrence.
Oui, il y a cette contradiction qui est personnelle. À savoir, il écrit Les Sept Piliers de la Sagesse, il veut faire aussi bien que Tolstoï, aussi bien que Dostoïevski, et tout le temps il se démolit. C'est un être qui passe sa vie à se prouver que ce qu'il fait est mal et inférieur à ce qu'il voulait atteindre. Mais ça, si vous voulez, il y a beaucoup d'écrivains qui sont comme ça. Mais chez lui, ça va beaucoup plus loin, parce que c'est l'idée même de l'écriture et de la création. La création est quelque chose d'inacceptable pour lui. C'est comme, vous savez, dans Lao Tzu, l'agir et le non-agir. Il n'était pas pour l'agir ni pour la création. Il pense que la meilleure chose qu'on pouvait faire de soi, c'était dans le non-agir, dans la non-influence. Et donc, avec les sept piliers de la sagesse, il a à la fois eu ce triomphe qu'il a eu beaucoup de mal à accepter parce qu'il a d'abord jugé que son livre était mauvais. Et puis, peu à peu, à force d'entendre qu'il était bon, il a compris qu'il avait écrit le livre qu'il voulait ou à peu près. Et alors à ce moment-là, il s'est dit, ben, j'ai écrit un bon livre, donc j'arrête, j'ai plus rien à faire. Mmh. Vous voyez, de toute façon, il était vaincu. Qu'il trouve son livre bon ou qu'il le trouve mauvais, il arrivait à un résultat qu'il ne le satisfaisait pas. Parce que le fond du problème est celui de la création et de la vie même.
Ce qui était peut-être satisfaisant finalement pour lui, c'est d'avoir remporté quelques victoires militaires. Non pas tant en combattant frontalement, mais par la connaissance de l'autre, et notamment la connaissance des Turcs, parce que il faisait cette chose assez incroyable de se déguiser en femme pour aller étudier, parce qu'il lui fallait vraiment connaître la manière de penser des Turcs pour les étudier de l'intérieur, pour pouvoir les combattre.
C'est ça ce qu'il faut souligner, effectivement. C'est cette volonté extraordinaire de Lawrence, qui, comme cette génération, ces hommes qui combattaient... Vu ça d'une certaine façon, ils étaient la volonté même, la volonté et la discipline. C'était ce qu'ils avaient le plus exercé chez eux. En plus, chez lui, il y avait l'amour du déguisement. Il se déguisait en femme, ça lui allait très bien. Et il voulait tout savoir. Il ne lançait aucune action sans avoir tout étudié. C'était d'un perfectionnisme total. C'était les mœurs, la façon de parler, la mentalité, la façon de se relier, les alliés qu'ils avaient, les ennemis qu'ils avaient. Ils savaient tout, tout, des tribus, et même de l'ennemi chez lequel il se rendait à ses risques et périls, avant de se lancer dans l'action.
Christine Jordis, Lawrence a-t-il été un sage ou a-t-il été finalement un saint pour vous ?
Une forme de saint sans Dieu. On a beaucoup dit qu'il était un mystique. J'ai lu une lettre, je crois, de Louis Gillet. Il a rencontré Massignon aussi, qui l'a vu comme un être dans un renoncement si poussé que lui, toute sa culture religieuse à Massignon, s'anéantissait devant une forme de renoncement pareille. Alors, était-ce un saint, ni saint, ni héros ?
Merci beaucoup, Christine Jordis. Je rappelle que vous êtes écrivaine, éditrice, critique littéraire et journaliste, et vous venez aujourd'hui nous parler de T.E. Lawrence tel que vous l'avez décrit dans votre livre « L'aventure du désert » disponible chez Gallimard dans la collection « L'infini ». C'était La Compagnie des auteurs, une émission de Didier Pinault, Anne-Vanessa Prévost, Laurence Millet, Laurence Genepin, Garance Mazelier et Emmanuel Morse-Duncamp. Demain, ce sera la dernière émission de la saison pour La Compagnie. Nous prendrons le large en évoquant quelques grands écrivains qui ont su parler de la mer. C'est Nicolas Hidier qui sera à ce micro. Mais tout de suite, la suite de la semaine intitulée « Finir en beauté » qu'a préparé pour vous Jacques Bonafé.
Bonjour, ah bonjour la compagnie. Et puis là, d'un coup, on s'est pris les pieds dans le tapis. C'était la sortie, pourtant à deux jours de là, d'une belle semaine intitulée « Finir en beauté ». D'accord, oui, mais comment faire le tri ? Tellement de belles choses en poésie, non ? Vous trouvez pas ? Bon, ben même si on les a déjà dites, on reprend deux poésies comme ça pour le plaisir. Valérie Rousseau, Sens inverse. J'aime aller dans la rue avec en tête un chant, chant de petit oiseau qui possède en son cœur minuscule un très gros nuage lourd, un énorme nuage comme un hippopotame tellement gonflé de l'eau des fleuves dont il est le cheval impensable, le cheval impossible dans une tête de fauvette, dans une tête de linotte ou de bergère honnête, aimant son ciel plein de moutons, écoute s'il pleut, écoute et goûte ma chanson, la chanson sortie de ma caboche qui grelotte en forme de souvenir, en forme de poire, poire de ma soif d'aller sous les nues par les rues, quand la vie minuscule semble vivable encore. On la figure sous-jacente de ce poème, c'est l'anadiplose, hein, le mouvement qui fonctionne par l'enjambement, comme ça. Est-ce que c'est tous ces poèmes comme de la répétition, demande James Sacré, que nous aimons aussi. Je sais pas, au moment qu'en voilà un encore, avec pourtant comme du verre dans soudain les buissons, en mars, un désordre avec des feuilles pourries, à cause du vent. Avec le verre maintenant, ça fait une drôle de saison neuve et vieille. Est-ce que c'était pareil l'année dernière ? J'en ai rien dit, pourtant j'en écrivais des poèmes. Ça a servi à « je me demande bien quoi ». Ça a disparu des mots qu'on a dit. J'ai mal entendu. De James Sacré aussi, sorti récemment dans la parole de l'autre. Tu quittes des yeux un instant l'extrémité morte d'un branchage d'orme autrement très vert. Le temps de penser qu'un poème est là presque donné. Et quand tu relèves les yeux, l'oiseau noir que tu n'as pas su identifier est parti. Il n'y a plus qu'un peu de bois mort dans le verre de la vie. Tu n'auras rien compris, même si un oiseau, parfois, lisse la lumière. Et alors, là, pour terminer aujourd'hui, un remerciement, un hommage pour sa fidélité et ses envois nombreux à Werner Lambercy, qui écrit dans le bureau des solitudes, tout petit cahier de poésie aussi publié par La Porte. Ça se reçoit sur abonnement, La Porte. Ne craignez rien, le monde ne manquera jamais de poèmes. La réalité manquera peut-être de réalité. L'amour manquera d'amour. La mort sans doute de mort. L'émotion manque aux machines. Qui sait s'il manque déjà de l'âme aux âmes, Mais ne doutez pas, le monde ne manquera jamais de poésie.
Jacques Bonafé, vous nous lisiez cette semaine des textes de trois auteurs, James Sacré, Valérie Rousseau et Werner Lambercy.